France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Dimanche dernier, le candidat nationaliste Karol Nawrocki a remporté l'élection présidentielle en Pologne, alors que plus largement, un peu partout, des leaders populistes entendent défendre l'idée d'une nation éternelle. Comment cette notion de nation, bien plus complexe qu'il n'y paraît, s'est-elle construite avec le temps et dans le temps? Pour en discuter, Sarah Mazou ce soir, bonjour et bienvenue.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue chargée de recherche au CNRS, vous venez de faire paraître l'ouvrage intitulé « Nation » dans la collection « Le mot est faible » aux éditions Anna Mossa, et avec moi, le plaisir du mercredi, Julien Bisson, bonsoir.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1. Merci à tous les deux d'être là pour cette interview dans Question du soir.
Nous devons tout faire pour que la Pologne reste la Pologne, riche de son patrimoine culturel, de notre attachement à ce qui est inscrit dans notre communauté nationale, au symbole de la croix et aux valeurs chrétiennes. Si Rafał Trzaskowski gagne, la Pologne que nous connaissons disparaîtra tout simplement. Elle sera inondée d'immigrés illégaux. Les agriculteurs et les forêts seront encore plus mis à mal par l'idéologie du pacte vert européen. Des soldats polonais seront envoyés en Ukraine, malgré le traitement injuste qu'elle nous réserve, alors même que nous l'avons tant aidée ces dernières années.
La voix de Karol Nawrocki, qui a gagné donc l'élection présidentielle en Pologne. Il était soutenu par le parti Droit et Justice, le PiS. Il a obtenu 50,89% des voix. Il faut dire un mot de sa biographie. Il a dirigé le musée de la Seconde Guerre mondiale à Gdansk avant de prendre la présidence de l'Institut de la Mémoire Nationale. Sarah Mazouz, lorsque vous entendez cet extrait, l'extrait de son discours, quel lien vous faites avec la vision qu'il a de la nation, avec l'idée qu'il avance de la nation?
Alors, il y a des éléments tout de suite très, très clairs qui sont à la fois agiter la menace de la disparition de ce que serait une Pologne éternelle, si tant est que ça existe, l'idée de jouer sur la peur et désigner tout de suite des groupes qui menaceraient. Et qui changent. C'est des gestes qu'on retrouve dans tous les contextes. Donc, la Pologne, là, ça fait l'actualité, mais il faut aussi déspécifier. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on retrouve dans différents contextes nationaux, justement. Mais c'est ça qui est très frappant. Poser l'idée d'une nation polonaise, d'une Pologne éternelle, jouer sur la peur et jouer sur l'idée de disparition.
Pour déconstruire tout de suite l'expression Pologne éternelle, France éternelle, Argentine éternelle, que sais-je, cette idée d'éternité accolée à un pays, qu'est-ce que cela a à voir? Pourquoi accole-t-on justement ces deux termes ensemble?
Alors il y a deux choses, c'est-à-dire qu'à la fois ça tient justement quand émerge l'idée de nation. Tout le discours sur la nation, c'est lié à ce que ça suppose comme transformation politique et notamment la rupture avec les héritages dynastiques qui, eux, s'inscrivaient dans le temps long. Donc, il fallait trouver un autre temps long. Et ça a été de construire l'idée de mythologie nationale en remontant à des antiquités locales, aussi en rupture avec l'antiquité gréco-latine si on pense au contexte européen. Mais on retrouve ça dans tous les contextes d'émergence et de formalisation du nationalisme. Donc, il y a cette idée-là. Et à partir de là, le glissement est très facile vers une conception essentialisée de la nation, sans mouvement, durci, avec bien sûr des en dehors de la nation, qui peuvent être des groupes qui font partie de la nation, mais qu'on désigne comme étant des ennemis de l'intérieur.
Et donc une vision bien sûr exclusive. Julien Bisson.
Oui, deuxième sujet d'actualité récente qui vient interroger la question nationale, c'est la loi restreignant le droit du sol à Mayotte, qui a été promulguée le 12 mai dernier. Ce texte renforce une dérogation spécifique au droit du sol qui existait à Mayotte depuis 2018. Avec ce texte, désormais, les deux parents devront résider régulièrement en France depuis au moins un an. En quoi cette disposition touche-t-elle à la conception de la nation à la française, jusque-là, justement, liée essentiellement au sol?
Alors, ça touche... Il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que ça touche au fait que il y a plus un seul sol déjà, et donc ça introduit des régimes dérogatoires, puisque du coup, ce qui se passe à Mayotte, on n'a plus les mêmes lois. Il y a un régime de loi dérogatoire en matière de droit du sol par rapport au reste du territoire français. Et en cela, déjà, ça réactive un geste qui rappelle de manière très troublante le geste colonial, qui est la division entre droit, ce qui se joue en matière juridique dans les colonies et ce qui se jouait dans la métropole. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a d'autres éléments qui dépassent la question du droit du sol en ce qui concerne Mayotte, qui sont troublants. Quand on voit là ce qui est projeté en matière de justice des mineurs et le fait de tenir pour responsables les parents, de pénaliser les parents, et là, ça touche... Il faudrait que des juristes spécialistes du droit colonial confirment ça, mais intuitivement, on se dit ça touche à l'individualité de la peine, un peu à la manière dont le code de l'indigénat touchait à l'individualité de la peine à l'époque coloniale. Donc il y a ça qui est, il y a une résurgence. Je ne sais pas si ça coupe avec l'identité française, mais en tout cas, ça ne correspond plus à ce que ça devrait être aujourd'hui.
Et ça remet en cause l'idée d'une communauté nationale une et indivisible.
Absolument. Et là, pour le coup, ça rentre en contradiction avec l'idée de république depuis la Troisième République, puisque la République est une et indivisible.
Si on creuse, Sarah Mazou, cette idée de nation. Pourquoi c'est une notion, c'est compliqué d'ailleurs à dire, ce nation-notion, c'est compliqué. Pourquoi c'est une notion qui est nébuleuse, qui est parfois difficile à définir et à circonscrire ?
Ben, sans doute parce que ça joue sur un imaginaire d'entre-soi. Alors moi, ça, je travaille depuis un moment sur des notions qui créent des entre-soi, mais celle-là, elle joue sur souvent un entre-soi qui sert à glorifier et à jouer sur l'identité, notamment aussi pour faire oublier les questions d'égalité qui traversent les sociétés. Et donc, il faut créer, faut animer tout ça. Et donc, pour animer tout ça, on fait un peu feu de tout bois, puisque par ailleurs, c'est une création de toute pièce, mais qui nie cet aspect construit. Donc voilà, c'est pour ça que c'est toujours vacillant et ça essaye de construire une évidence qui se dérobe constamment, en fait.
Julien Bisson.
Oui, pour comprendre ce que la nation est ou ce qu'elle n'est pas, quelle différence peut-on faire entre une nation et une société, par exemple ? Aujourd'hui, on parle beaucoup d'ailleurs de société française pour parler de la communauté nationale. Qu'est-ce que ça signifie de devoir recours à ce terme de société ? Comment est-ce qu'on peut opposer ces deux concepts ?
La nation, c'est quand même... Alors, ça ne s'oppose pas, ça se distingue. Mais la notion de nation, c'est vraiment l'idée de communauté d'appartenance. Et c'est quand même, et c'est aussi pour ça que dans le livre, j'ai essayé de tenir deux choses qu'on ne tient pas toujours ensemble dans les travaux. C'est à la fois l'émergence de l'idée de nation et les politiques de nationalité. Donc, les pratiques concrètes de délimitation du groupe. Et la nation, c'est aussi lié à ça, c'est-à-dire à la nationalité et aux droits qu'elle donne. Or, on peut faire partie de la société en étant étranger, par exemple. On n'a pas exactement tous les mêmes droits que les citoyens ayant la nationalité.
Comment est-ce que la nation prend son sens politique moderne au moment de la Révolution française ? Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là qui permet de cristalliser une définition et un rapport justement à la nation ?
Alors, le moment de la Révolution française, il est intéressant. D'abord parce qu'il pense les choses, la communauté nationale, dans les termes de la citoyenneté et pas du tout de la nationalité, en même temps que la nation devient un acteur politique. Puisqu'on repense l'appartenance et le rôle politique des individus à travers leur adhésion au projet politique. Et donc, à partir de ce moment-là, la nation, confondue avec le tiers-État, en fait, si on pense au texte de Sieyès, devient l'acteur principal de la politique. Et donc, ce qui est intéressant, au moment de la Révolution, même si ça ne dure pas longtemps, notamment du fait de la situation politique et de guerre civile et extérieure qui s'enclenche très rapidement, c'est l'idée que l'adhésion au système politique fait votre appartenance à la nation. Alors, ce que je montre en m'appuyant sur des travaux de collègues historiens, c'est que très vite, ça achoppe et qu'il y a dans l'idée d'appartenance tout de suite d'autres éléments qui entrent en jeu. Mais c'est ça qui est intéressant au départ, c'est si vous adhérez, et d'ailleurs il y a à l'époque, dans les premiers temps de la Révolution, des députés qui sont étrangers, notamment britanniques et prussiens, et qui siègent comme députés de l'Oise ou du Pas-de-Calais.
Il y a un autre point intéressant, c'est que la nation à ce moment-là se confond avec la réalité socio-économique. Son citoyen rattaché à la nation, celles et ceux qui travaillent.
Oui. Puisque, justement, alors, il y a l'idée de citoyenneté qui est intéressante, mais très vite, il y a des divisions au sein de la citoyenneté, puisqu'on a citoyenneté passive et citoyenneté active, et que dans la citoyenneté active qui donne les droits politiques, en fait, qui permet l'exercice, notamment, du vote, il y a tout de suite des conditions censitaires, donc il faut, posséder des biens, travailler, etc. Et il y a l'idée qu'il faut pas être mineur, et donc, à l'époque, on met dans l'idée de minorité, dans le groupe mineur, les personnes pauvres, les indigents, pour parler à l'époque, et les femmes, puis aussi, après, il y aura d'autres lignes de clivage.
Julien Bisson.
Dans le 19e siècle, qui va suivre la période révolutionnaire, ça va être le grand moment d'émergence des nations, au sein même de grands empires européens. Et vous écrivez ceci: le paradoxe est d'emblée saisissant, ce sont les empires qui ont constitué le laboratoire de production de l'imaginaire national qui allait finalement concourir à leur morcellement. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de ces empires pour que les nations puissent prendre leur essor ?
Je ne sais pas si on avait besoin de ces empires, mais ces empires ont comme effet non voulu de produire des identifications qui vont prendre ce sens-là. Alors c'est tout le travail de Benedict Anderson qui explique l'émergence de ce sentiment en fait d'appartenance nationale. Alors il travaille d'abord lui sur l'empire espagnol notamment en Amérique, dans les Amériques, et notamment cette question qui est que comment des élites qui sont au départ des élites européennes installées dans les Amériques vont se penser comme des nations opposées à la métropole. Et en fait, il y a plein d'éléments, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a des questions, l'émergence l'idée d'égalité, des idées des Lumières, les systèmes d'imposition iniques entre métropole et empire. Si on pense aux empires sur le continent européen, le fait de taire certaines langues, de mettre en place des régimes d'inégalité. D'ailleurs, même entre Espagnols et Espagnols d'Amérique latine, il y a des inégalités statutaires. Et puis, il y a ce qu'on retrouvera aussi après dans les empires coloniaux, l'organisation administrative ou l'organisation de la formation des élites coloniales qui va amener, c'est ce qu'explique très bien Anderson, je ne vais pas rentrer là dans les détails, à se penser comme faisant partie d'un groupe qui n'est pas celui de la nationalité qui dirige l'Empire, en fait.
Vos analyses, Sarah Mazouz, résonnent évidemment avec l'actualité. Quand on pense au lien entre empire et nationalisme, entre impérialisme et nation, on pense évidemment au cas ukrainien. La voix d'Alexandra Goujon, la maîtresse de conférence à l'Université de Bourgogne, enseignante à Sciences Po et spécialiste de l'Ukraine et de la Biélorussie.
En Ukraine, en ce moment, on a un nationalisme chaud dans le cadre d'une guerre. Donc c'est une crise très particulière, et ce n'est pas un nationalisme chaud qui est justement relié à un nationalisme extrême, puisque aujourd'hui, les changements identitaires dont je parlais, hein, le rapport à la Russie, le rapport à la culture ukrainienne, le rapport à la langue ukrainienne, le rapport au drapeau, qui vise à une construction nationale qui met en avant la nation, mais dans ce qu'elle peut rassembler le plus possible de citoyens indépendamment, j'allais dire, de différences, par exemple, religieuses ou de différences d'origine. J'ai eu des témoignages de gens m'expliquant en quoi leurs parents étaient nés en Russie, venus s'installer en Ukraine, et où il y a un attachement à la terre ukrainienne qui est extrêmement fort.
Est-ce que vous diriez, Sarah Mazouz, que cet impérialisme russe participe pleinement à dynamiser le nationalisme ukrainien ?
Ben, c'est l'histoire. D'ailleurs, Anderson met la russification, ce qu'il appelle la russification, comme un des modèles d'opposition entre un nationalisme impérial, disons, qui se sent menacé quand émergent des nationalismes que lui appelle populaires. Et bien sûr, là, c'est ça qu'on voit. Alors, c'est frappant parce qu'en effet, on est dans un moment aussi de réactivation de logique impériale. Et donc, en retour, vous avez des réponses qui sont à nouveau aussi autour de la réactivation, enfin d'un attachement à une langue nationale, etc.
On retourne au 19e siècle grâce à Julien Bisson.
Oui, on a parlé de Sieyès et de son regard sur la nation. Il y a un autre grand penseur de la nation, c'est évidemment Ernest Renan. Sa conférence intitulée « Qu'est-ce qu'une nation ?» a été prononcée à la Sorbonne le 11 mars 1882. Qu'est-ce qu'il nous dit, Renan, sur sa définition de la nation ?
Alors, ce qui est très intéressant avec Renan, c'est que c'est un texte qui propose déjà, avant l'heure, une lecture constructiviste de la nation. Il commence par dire d'abord que c'est une évidence dont il faut se méfier. Enfin, on croit que c'est évident et en fait, voilà, donc il y a un principe de prudence. Il distingue la nation de la religion, de la langue, de la race, de la géographie, d'unité douanière.
Donc, de la vision allemande de la nation.
De la vision allemande de la nation, tout à fait. Et c'est ça qu'il a en contrepoint. Et il propose l'idée d'une nation qui est le fait de vouloir faire des choses ensemble et d'adhérer en fait à un projet. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est quand il mobilise l'idée de plébiscite, c'est aussi que la nation doit accueillir en son sein les personnes et les groupes qui se reconnaissent en elles.
Il parle plus particulièrement de plébiscite de tous les jours. La nation, c'est quelque chose auquel il faudrait montrer, marquer, penser à son adhésion au quotidien. Je voudrais vous faire entendre une lecture d'Ernest Renan par Charles Berling. C'était dans le Toute une vie de France Culture, justement sur Ernest Renan.
L'essence d'une nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun et aussi que tous aient oublié bien des choses. Aucun citoyen français ne sait s'il est burgonde, alain, taïfal, visigoth. Tout citoyen français doit avoir oublié la Saint-Barthélemy, les massacres du Midi au XIIIe siècle. Il n'y a pas en France 10 familles qui puissent fournir la preuve d'une origine franque.
C'est étonnant, saisissant même, Sarah Mazou, cette notion d'oubli que l'on accole à la notion de nation. Ça va à l'encontre même, j'allais dire, de cette idée de nation éternelle.
Bah oui, mais je pense que c'est ça qu'il a en tête. Je pense qu'il est conscient de ça, Ernest Renan. Et que c'est justement aussi parce qu'il défend une historicisation de la nation qu'il rappelle à quel point la nation se fonde sur un oubli. Voilà, ça m'a dit encore un autre paradoxe lié à la nation. Mais je crois qu'il a aussi en tête, et ça fait peut-être écho à ce qu'on a vu au tout début, avec le cas polonais et la place de l'histoire, c'est qu'il a très vite conscience aussi que le progrès de la science historique est vu comme une menace par les nationalistes. Parce que justement, les nationalistes font usage ou instrumentalisent, ou voire manipulent ou falsifient l'histoire. Et donc, Renan est à la fois attaché à cette autonomie de la science historique, mais du coup, il a aussi conscience que pour faire nation, il faut oublier pour penser les plaies. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on doit être dans une omission, mais au contraire, en fait, on peut penser ça comme le fait d'avoir, une fois qu'on a affronté son histoire, on peut oublier, c'est-à-dire aussi penser à l'histoire sans que ça réactive de la violence.
Dès le 19e siècle, donc, on explique que les historiens menacent le roman national. Julien Bisson.
Alors pourquoi est-ce que ce texte fondateur d'Ernest Renan a pu être utilisé, détourné par des visions plus identitaires que sont celles de Maurice Barrès, de Charles Maurras comment est-ce qu'on a pu tordre ce texte d'Ernest Renan?
Alors, c'est peut-être un peu aussi le sens de la conclusion de mon livre, c'est-à-dire qu'on peut, les usages peuvent toujours tordre toutes les notions, même les plus louables ou les textes les plus louables. C'est pour ça qu'il faut faire attention au contexte d'énonciation, aux trajectoires des gens qui énoncent et qui font usage de certains textes. Et après, il y a aussi tout simplement les éléments d'instrumentalisation politique. C'est un texte qui est devenu un texte emblématique justement d'une conception à la française de la nationalité. Et donc très vite, il y avait sans doute, une forme de... Ça rapportait des points de se dire qu'on était dans le sillage d'Ernest Renan, même si on en déformait complètement le sens.
Au regard de l'histoire, Sarah Mazouz, est-ce que les nationalismes précèdent les nations? Est-ce que c'est l'idée qui permet de forger, de faire vivre le concept politique? Ou bien c'est l'inverse? C'est une fois qu'une nation est établie que le nationalisme se renforce?
Alors c'est quand même le nationalisme qui amène à créer des nations. En tout cas, si on regarde historiquement ce qui s'est passé, que ce soit si on retourne dans les Amériques ou dans les empires européens ou après les décolonisations, des nations naissent.
Ou dans l'histoire italienne même.
Ou dans l'histoire italienne, exactement, ou dans l'histoire allemande. Alors, c'est toujours un va-et-vient, en fait. Mais si on pense, par exemple, à la fois, c'est compliqué d'avoir un discours arrêté sur ce qui se passe en ce moment, mais on peut penser aussi à certaines analyses de Marcel Mauss juste après le premier conflit mondial, c'est que des fois le nationalisme joue contre la nation. Et on pourrait se demander si ce n'est pas ça qui se passe en ce moment, si on voit ce qui se passe aux États-Unis quand le Make America Great Again se retourne contre l'État fédéral et ce qui fait nation aux États-Unis. Et puis on pourrait voir ça ailleurs. D'ailleurs, même encore en Pologne, la proximité avec du nouveau président avec Trump et Poutine pose question sur ce que ça fera à la nation polonaise construite en opposition à l'impérialisme russe notamment.
Julien Bisson.
Oui, la nation se voit aussi à travers certains objets, c'est le drapeau, c'est l'hymne, c'est tout ce que Michael Billig appelle le nationalisme banal. Mmh. Est-ce que le contenu même de la nation peut être amené à évoluer au fil du temps, ou est-ce qu'on est raccroché à des mythes fondateurs? Alors, on parlait de la France éternelle, mais la façon dont se raconte la nation peut elle-même évoluer au fil du temps?
Ah bah, elle évolue tout le temps. Et les mêmes moments historiques peuvent recouvrir se trouver à utiliser de manière différente ou mobiliser dans des contextes différents. C'est d'ailleurs ce que montrent, rien qu'à l'échelle du 19e siècle et du début du 20e, les travaux de Anne-Marie Thiès sur la création, l'invention des identités nationales. Des figures historiques peuvent connaître toutes sortes d'interprétations.
Justement, si on va un peu plus avant sur ces travaux d'Anne-Marie Thiès, comment se construisent les identités nationales? Ce qu'elle montre, Anne-Marie Thiès, c'est notamment la façon dont émergent des récits fondateurs propres à une nation. Il faut nous raconter comment cela se passe.
Alors, elle situe ça vraiment, c'est dans le cas européen, mais c'est parce que c'est un laboratoire assez emblématique, parce qu'on voit aussi tout le lien qu'on pourrait concentrer dans l'idée de révolution romantique, à la fois dans son aspect littéraire et dans son aspect politique. Et donc, au XVIIIe siècle, il y a tout, avec la transformation politique et les idées de la révolution, donc ce que je disais tout à l'heure, il y a une rupture avec une espèce d'éternité dynastique. Et il faut aussi montrer que l'histoire s'écrit par toutes sortes, des gens de toutes conditions. Et donc on va vouloir rompre à la fois avec la mythologie gréco-latine, les salons, et donc on va aller à la recherche de mythologie locale. Et ça va se faire. Alors il y a un récit emblématique qui est complètement monté de toutes pièces, quasiment par un jeune érudit écossais qui s'appelle James Macpherson, qui savait lire le gaélique et qui est parti qui a fait un travail de rhapsode au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il est à la fois parti collecter des histoires et puis il a rajouté des choses et il a inventé deux personnages qui sont présentés comme étant des personnages réels. Et ça a créé une espèce d'Iliade écossaise, suivie d'une odyssée calédonienne. Et c'est devenu une sorte de récit des origines. Et tout le monde s'emballe pour Ossian sur le continent européen. Et
d'ailleurs, Ossian, c'est l'un de ses personnages.
C'est le personnage, c'est lui qui est censé raconter tout ça, qui est censé être Laède, un peu comme dans Homère. Et voilà, et on retrouve ça dans plein d'autres... je le développe pas dans le livre, mais c'est Anne-Marie Thiès qui l'explique. Même par exemple aux États-Unis, on s'est posé la question de pouvoir parler d'Ossian au moment de créer une nation états-unienne. Donc voilà, et à partir de là, ça lance tout un mouvement avec retrouver des manuscrits, inventer l'histoire de découverte de manuscrits qui sont des faux. Voilà, et c'est assez drôle et croustillant.
Tout le monde cherche son océan. Je viens voilà.
Oui, j'allais vous demander. Oui, même moi. Et d'ailleurs, j'allais vous demander. On parle parfois, par exemple, de l'Union européenne comme d'un État sans nation. Est-ce que l'Europe, aujourd'hui, a besoin de son océan pour pouvoir se constituer en tant que nation?
Je crois que l'Europe a ses récits et que cette pluralité est importante à garder. Alors c'est avec ça que je finis, il y a l'idée aussi de se penser comme un lieu démocratique avec toutes les ambivalences que le fait de transformer la démocratie comme une identité peut faire porter à l'idée même de démocratie et à l'inquiétude qui doit rester la sienne.
Il vous semble aujourd'hui plus profondément dévoyé que d'habitude, j'allais dire, cette notion de nation aujourd'hui, si on prend par exemple le cas français, l'usage, le recours qui est fait de cette notion dans le cadre politique, quelle analyse vous en faites?
En fait, je pense que chaque fois qu'on a trop recours à la nation, c'est que c'est mauvais signe, en fait. C'est-à-dire que la nation, il faudrait la laisser se faire et la laisser aussi...
Laisser se faire sans en parler, sans l'évoquer?
Oui, et puis en faisant que ce soit des identifications différentes, alors que dès qu'on commence à la s'aîner, on retombe du côté de l'identité et donc de la rigidification. ce qui permet d'exclure essentiellement et de faire oublier aussi les points de dissensus qui sont structurants dans les sociétés, en fait.
Merci beaucoup, Sarah Mazouz. Je rappelle le titre de votre ouvrage passionnant que vous avez fait paraître aux éditions Anamosa dans la collection Le mot est faible. Il s'appelle tout simplement Nation, comme la thématique de l'échange que nous venons d'avoir. Vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS. Et je me tourne vers vous, Julien Bisson. Qu'est-ce que l'on trouve cette semaine dans l'hebdomadaire Le 1 ?
Eh bien, on se demande s'il faut dire la vérité en politique, dans les médias, dans le couple, avec notre consoeur Géraldine Mühlmann, mais aussi Pierre Zaoui, Vincent Giraud et bien d'autres.
Vaste question. Merci en tout cas à vous de cet échange. Merci d'être venu ce soir dans Question du soir.
Merci.